Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors je ne le présente plus évidemment, il est à mes côtés tous les jours dans ce studio pour vous informer et prendre soin de vous, auditeurs d'Europe 1. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à la fertilité masculine. Depuis plusieurs années, tous les voyants sont au rouge, le sperme humain est en berne. Il contient de moins en moins de spermatozoïdes et de moins bonne qualité, ce qui peut contrarier évidemment le désir de paternité. Alors doit-on parler de désastre sanitaire? Comment expliquer ce constat et surtout quelles sont les solutions? Pour en parler, nous recevrons le professeur Stéphane Droupy. Il est chef du service d'urologie et andrologie au CHU de Nîmes et l'auteur du livre « Demain, tous infertiles » chez First Edition. Ensuite, dans notre chronique, les mots du quotidien. Nous ferons un focus aujourd'hui sur une classe de médicaments. Les antibiotiques, savez-vous comment ils ont été découverts? Dans quelle indication bien les utiliser? Le docteur Jimmy Mohamed nous dira tout. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons comme tous les jours Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, il sera question de séduction au quotidien dans les couples bien établis.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, vous le connaissez, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va démarrer par la question d'une jeune maman. On l'écoute.
Oui, bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Je vous appelle parce que j'ai un bébé d'un mois et demi et j'envisage de le faire vacciner contre la gastro-entérite. Et je sais que ce vaccin est un peu critiqué par certains médecins, mais je voulais savoir pourquoi, ce que vous en pensez. Voilà, merci beaucoup.
Alors Jimmy, ce vaccin contre la gastro-entérite, bon d'abord c'est pas un vaccin qui est obligatoire, on va l'expliquer, et en plus c'est pas une injection, hein, c'est pas un vaccin comme on a l'habitude de les voir.
C'est le principe de la vaccination mais sans injection, on peut le boire, et c'est pas un vaccin contre la gastro-entérite, c'est contre une souche, celle du rotavirus qui donne des gastro-entérites, et c'est pas contre la souche en particulier, ça permet d'éviter les formes graves de gastro-entérite liées à ce virus, notamment chez les petits qui ont moins de 1 an.
D'accord. Alors, vous le conseillez à qui, par exemple? Parce que là, vous parliez des enfants de moins de 1 an. Il se fait à quel âge, ce vaccin? Est-ce que moi, par exemple, je pourrais le faire, le boire, ce vaccin, pour éviter d'avoir un rotavirus?
Non, parce que Mélanie, vous pouvez vous laver les mains, on peut faire attention.
Oui, je peux, je le fais d'ailleurs.
Donc, on respecte les gestes barrières. Donc, les adultes ne sont pas concernés par ce principe de vaccination.
C'est moins risqué chez moi, peut-être, une gastro-entérite que chez un tout petit.
Exactement.
Quoi,
hein. Non seulement on fait plus attention, mais en plus, le risque est moins important. Les petits, lorsqu'ils attrapent la gastro-entérite, c'est source d'hospitalisation. Et donc, à partir de 6 semaines, on peut proposer cette vaccination, le principe de la vaccination, jusqu'à 6-8 mois. On fait sous 2 ou 3 injections, enfin sous forme buvable, à 1 mois d'intervalle. Et au-delà, le vaccin n'est plus efficace. Donc à 1 an, c'est déjà trop tard.
Donc un vaccin pour les tout petits. Alors Jimmy, pourquoi il n'est pas très populaire? Elle en parlait, cette jeune maman. C'est vrai qu'il y a effectivement un effet secondaire, certes rare, mais qui peut inquiéter, qui s'appelle l'invagination. Est-ce que vous nous expliquez ce que c'est?
Alors c'est vrai qu'il n'est pas très populaire, mais il est efficace puisqu'il permet de réduire de 85% le risque de faire une forme grave de gastro-entérite liée au rotavirus, qui est une souche dominante lors des épidémies. Donc l'enfant sera moins hospitalisé si jamais il l'attrape. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas de gastro-entérite. En revanche, on s'est rendu compte qu'il y avait un effet secondaire qui reste rare, 1 enfant sur 10 000, mais qui peut être potentiellement grave, l'invagination intestinale.
Alors, c'est quoi,
aiguë,
ça, ouais.
C'est un bout d'intestin qui va se coincer dans un autre morceau d'intestin.
Ça fait comme un accordéon un peu, là,
enfin,
je sais pas, ça rentre l'un dans l'autre. Quoi,
exactement,
c'est ça.
Ça fait comme une forme d'occlusion qui est pris en charge ensuite à l'hôpital. Donc c'est une pathologie qui reste quand même assez sévère.
Et juste pour savoir quand même, parce que si on fait ce vaccin, est-ce qu'il y a des signes qui donnent l'alerte? Parce que j'imagine que ce n'est pas mortel dans tous les cas, l'invagination. Comment on voit
non.
Son enfant a peut-être ça?
Heureusement, ça se traite bien. En général, le pic de fréquence vers l'âge de 9 mois. C'est un enfant qui tout d'un coup va se mettre à hurler de douleur puisqu'il a un bout d'intestin qui va se coincer. Il va pleurer,
très mal, ouais.
Il va avoir très mal, il va se calmer. Puis il va avoir des pleurs au fur et à mesure qui vont se répéter. Il va vomir, il va être tout mou. Et à ce moment-là, évidemment, on fait
urgence.
Aux urgences pour faire une échographie, pour poser le diagnostic.
Merci beaucoup, Jimmy. On va passer à la deuxième question. Cette fois, c'est Roland qui nous l'a posée. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Voilà, j'ai vu qu'en Allemagne, ils ouvraient tout le temps leurs fenêtres et je voulais savoir en fait quel était l'intérêt de faire ça. Voilà, merci pour votre réponse. Bonne journée, au revoir.
Bon, alors ouvrir ses fenêtres, j'espère que vous le faites quand même de temps en temps, coronavirus ou pas, c'est important d'aérer. Jimmy, c'est le nouveau geste barrière.
Oui, c'est le quatrième geste barrière qu'on devrait tous appliquer. On se lave les mains, on porte des masques et on reste à distance. Mais en plus de ça, il faut renouveler l'air en permanence puisqu'on s'est rendu compte qu'il y a une contamination aérienne du virus. Le virus peut être un peu suspendu en l'air et donc en renouvelant l'air, on limite la contamination si on respecte les 3 gestes barrières associés.
Donc les trois autres, c'est le masque, la distanciation sociale et j'oublie le lavage des mains,
ouais, n'oubliez pas
t'as
que...
vu, j'oublie le lavage des mains, mince.
Mais oui, on l'oublie, même si la contamination par les mains reste moins fréquente, mais néanmoins, en vous lavant les mains, vous éviterez aussi d'autres infections que le coronavirus.
Et donc chez soi, on ouvre les fenêtres, au bureau, on ouvre les fenêtres, partout on ouvre les fenêtres, il fait froid dehors pourtant, mais c'est pas grave, on se couvre alors, c'est ça ?
Exactement, ouais. Les Allemands, notamment dans les classes, aèrent régulièrement, ils font la technique de l'oignon, au fur et à mesure, on rajoute des couches quand on ouvre la fenêtre, et puis lorsqu'on la ferme, on enlève des couches, donc aérer au maximum, d'autant plus que si vous devez faire des réunions de famille, des soirées, même si on vous le déconseille en cette période, le fait de renouveler l'air va permettre de limiter la contamination, puisque sans se toucher, sans s'embrasser, rien qu'en parlant sans masque, on peut transmettre du virus qui va être très léger, des microparticules qui vont être plus légères que l'air, qui va former une forme de nuage de virus, qui va rester entre 20 minutes et 4 heures dans la pièce si on n'aère pas. Donc plus une pièce est petite,
si on aère,
plus il y a
ça
du
s'en
monde.
Va ce nuage.
Exactement, ouais. Ça permet de renouveler, et donc il est impératif de tous ouvrir nos fenêtres, même en cette période d'hiver, vous n'attraperez pas froid, et vous n'attraperez pas le coronavirus.
Et puis sinon, on fait l'oignon, alors on a compris.
La technique c'est, de l'oignon,
la
ça
technique,
marche pas mal.
On met plein de couches. Très bien,
côté
merci.
Top chef.
Merci beaucoup, Jimmy. Si vous aussi, comme Roland, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est le professeur Stéphane Droupy, urologue spécialiste de la fertilité, qui vient aujourd'hui nous parler d'un sujet inquiétant, la chute de la fertilité masculine, justement. Moins de spermatozoïdes chez les hommes depuis 30 ans et de moins bonne qualité. Alors demain, tous infertiles, c'est le titre de son livre, justement. Et il nous en parle dans quelques minutes. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, professeur Stéphane Droupy. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service d'urologie et andrologie au CHU de Nîmes et également l'auteur du livre « Demain, tous infertiles » chez First Edition que vous avez coécrit avec Brigitte Fanny Cohen. Alors dans votre livre, professeur, vous partez d'un constat. Les hommes d'aujourd'hui ont de moins en moins de spermatozoïdes dans leurs testicules et non seulement ils en ont moins, mais en plus de moins bonne qualité.
Oui, c'est un constat dont on a douté pendant quelques années, puisqu'on s'est dit que ça doit être lié à des biais de comptage. On utilise des automates, maintenant c'est pas comme il y a 30 ans. Et en fait, aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a effectivement une baisse de la quantité et une baisse de la qualité des spermatozoïdes de l'ordre de 50% environ depuis 30 ans.
Oui, quand même, 50% c'est beaucoup.
Ce qui est considérable, effectivement.
Jimmy ?
Est-ce que du coup, ça peut être une source à la difficulté pour concevoir un enfant ?
Ouais, c'est une bonne question parce qu'on pourrait
parce
dire
que 50% de des milliards ou des millions,
voilà,
enfin
ça.
Vous allez nous dire, mais
des dizaines de millions en tout cas, ça pourrait être non significatif. Alors on a plusieurs manières de répondre à ça. Une première, c'est de voir que si on dit qu'en général un couple sur 7 souffre d'infertilité, on s'aperçoit que les dernières études françaises vont plutôt sur 1 sur 6 ou sur 1 sur 5. On voit que la fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme, a tendance à diminuer de façon certaine depuis les années 70 dans les pays industrialisés.
Mais ça, c'est peut-être un choix parce que les femmes travaillent plus,
etc. Il pourrait y avoir effectivement des biais, mais en tout cas, on est passé largement au-dessus de la barre des deux, ce qui fait que le renouvellement de la population aujourd'hui dans nos pays, c'est plus la natalité, c'est lié à l'augmentation de l'espérance de vie, un peu l'immigration. Et puis après, il y a quand même des chiffres qu'on a qui sont intéressants. Il y a 15 ans, il y avait un enfant sur 60 qui naissait issu de la PMA. Aujourd'hui, c'est un enfant sur 30.
Oui.
Il y a un petit garçon, une petite fille par classe qui est issu de la PMA. Ça s'est multiplié par 2 en 15 ans. C'est donc probablement un signe que, oui, il y a des conséquences sur les capacités à concevoir.
Et dans la moitié des couples infertiles, c'est à cause de l'homme. De l'homme, en fait. Ce n'est pas toujours les femmes. On croyait que c'était...
Ouais. Ouais. C'est pas toujours les femmes, ça c'est certain. Aujourd'hui, je pense qu'on le sait, même si les conduites de certains médecins ne sont pas toujours dans ce sens-là. Mais oui, on va dire que globalement, une fois sur deux, l'homme est impliqué dans l'infertilité.
Et l'homme, justement, n'est pas le seul concerné. C'est un phénomène qui est assez bien décrit chez les animaux, avec un des responsables, les perturbateurs endocriniens.
Oui, c'est un petit peu comme ça que l'histoire a commencé. En Floride, dans un lac, on s'est aperçu que les alligators avaient des malformations génitales, qu'ils n'arrivaient plus à faire des petits. Et on s'est aperçu que c'était lié au fait qu'il y avait des pesticides qui avaient été accidentellement mis dans ce lac. Et donc, ça générait des malformations génitales chez les mâles. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Je crois que c'est 1994, la publication de cette histoire-là.
Donc les alligators et puis les hommes, alors
et puis
aussi.
Maintenant les hommes. Ouais.
En urologie, justement chez les hommes, ou même chez les petits garçons, quels sont les effets aujourd'hui bien connus de ces pesticides perturbateurs endocriniens ?
Oui, alors ce qu'on voit, c'est ça commence chez le petit garçon. Hein, quand il naît, il y a ces petits garçons qui ont les testicules qui ne sont pas descendus dans les bourses. Ils sont sur le chemin, mais ils n'ont pas terminé leur descente. Ça, c'est un premier signe qu'on peut rapporter aux perturbateurs endocriniens. Le fait que la verge ne soit pas complètement finie, c'est une malformation qu'on appelle l'hypospadias, c'est-à-dire que l'urètre n'a pas été jusqu'au bout. Le micropénis aussi.
Ça, il y en a de plus en plus.
C'est des choses qui surviennent de plus en plus fréquemment. Oui, on voit une augmentation des testicules non descendus sur les... Alors, c'est pas toujours facile, mais en tout cas, les indications chirurgicales de genre de geste augmentent régulièrement, et jusqu'au cancer du testicule, bien sûr, dont on a une augmentation très, très significative.
Alors, autant perturbateur endocrinien et cancer, on peut comprendre le lien, mais comment est-ce qu'un perturbateur endocrinien peut empêcher un testicule de descendre ou entraîner une malformation urogénitale chez le petit garçon?
Alors, c'est que dans le ventre de sa mère, le petit garçon, lorsque le gène, donc on dit SRY, qui va déterminer le fait que c'est un petit garçon, va faire en sorte que la gonade, c'est-à-dire la glande sexuelle primitive, va devenir un testicule, va se mettre à sécréter des hormones spécifiques à l'homme, au garçon, qui sont la testostérone et l'hormone antimullérienne. Et ça va permettre au testicule de sortir à l'extérieur, puisque ce n'est pas un ovaire, il ne reste pas à l'intérieur, et puis à l'appareil génital de se développer comme un garçon et d'éviter que les structures qui développeraient un appareil génital féminin, c'est-à-dire qu'on appelle les canaux de Müller, ne se développent. Si, au moment de ce développement, la mère est soumise, exposée à des substances chimiques qui, en fait, ont comme action de mimer l'action des hormones féminines.
Et ça veut dire quoi? C'est une maman qui vit dans un environnement, j'en sais rien, au milieu des champs, au milieu des vignes
Des vignes, voilà.
Ah, là, je vais donner le bon exemple, je crois.
Non, mais ça peut arriver, effectivement. Ouais. Ça peut être au milieu des vignes, ça peut être... Alors, ça peut aller jusqu'à des parfums. On sait qu'il y a des xénoestrogènes dans les parfums. Ça peut être dans l'alimentation, tout simplement. C'est-à-dire que les bouteilles plastiques peuvent contenir des substances comme les phtalates qui vont être des perturbateurs endocriniens, qui vont donc jouer sur le développement. C'est-à-dire que les messages sont contradictoires. La testostérone et l'hormone antimullérienne versus les estrogènes qui vont donner des messages qui vont perturber le développement de l'appareil génital du petit garçon.
Et justement, vous parlez des phtalates, des plastiques, et vous dites dans votre livre, s'il fallait faire un procès pour condamner les coupables de cette explosion d'infertilité masculine, il n'y aurait pas assez de place sur le banc des accusés. Ça veut dire vraiment que notre environnement nous rend malades.
Oui, alors, tout ça partait d'une bonne intention. Vous avez remarqué qu'au XXe siècle, on a eu une explosion du développement technologique, une explosion des produits chimiques. Il y a des dizaines de milliers de produits chimiques qui ont été utilisés pour notre bien, pour lutter contre les insectes.
Pour améliorer notre quotidien avec plein d'objets de plastique, de machin.
Oui, oui, même au-delà de ça, pour sauver des vies. La peste, ça tuait la moitié de la population des pays d'Europe. Le paludisme, ça tuait des gens. Et donc, on a utilisé ces produits chimiques. Et aujourd'hui, c'est un peu comme la planète. Le climat, on subit les petits effets indésirables de ces substances qui nous ont apporté beaucoup, mais qui ont des effets indésirables qu'on n'avait pas vraiment prévus.
Professeur Dropi, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons continuer à vous parler de ces problèmes de plus en plus fréquents d'infertilité masculine avec un sperme qui a de plus en plus de mauvaise qualité ces dernières années, notamment à cause de notre environnement et des fameux perturbateurs endocriniens qui sont tout autour de nous. On va vous expliquer leur impact précis sur notre santé reproductive et comment bien sûr les éviter. Tout ça, c'est dans un instant et c'est sur Europe 1.
Sans rendez-vous,
15h, 16h sur Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors sur notre plateau, aujourd'hui notre invité c'est vous, professeur Stéphane Dropi. Vous êtes chef du service d'urologie et andrologie au CHU de Nîmes et également l'auteur du livre « Demain tous infertiles » chez First Edition que vous avez coécrit avec Brigitte Fanny Cohen. Alors professeur, on a parlé un petit peu des perturbateurs endocriniens tout à l'heure et de finalement... où on les trouve dans notre quotidien, dans notre maison, on va dire. Vous avez parlé des parfums, mais dans quelle autre pièce, avec quels objets du quotidien encore on peut se contaminer comme ça et mettre peut-être en danger sa fertilité?
Oui, alors on a parlé des parfums, mais c'est globalement tous les cosmétiques. Tous les cosmétiques, en tout cas beaucoup de cosmétiques.
Heureusement, les hommes en utilisent moins. Alors peut-être.
Mais ça fait partie des choses qu'on voit dans les études, c'est-à-dire que les taux sont de contamination sont moins.
Ça peut être le shampoing, le gel douche qu'on utilise, c'est
exactement.
Ça hein,
exactement, ouais. c'est les crèmes. Puisqu'il y a beaucoup de crèmes qui utilisent...
Vous risquez rien, Jimmy, vous, au moins.
Non, à ce niveau-là, effectivement, non, c'était gratuit, crème. Mais c'était honnête.
Oui, ça, voilà, ça c'est lundi, j'aime bien commencer la semaine.
Je pense que de plus en plus d'hommes mettent des crèmes pour rajeunir et peut-être que ou essayer de rester jeune, donc il peut y avoir un risque. Mais on va en trouver, oui, dans les cosmétiques, dans les contenants alimentaires, dans tous les plastiques. Hein, la plupart des plastiques aujourd'hui, pour avoir une bonne texture, utilisent des phtalates ou des assouplissants qui sont lorsque
donc
ça
si
se dégrade.
Si on mange que des plats en boîte dans du plastique, c'est clairement dangereux. Quoi,
surtout, il ne faut pas les faire chauffer dans les contenants puisque ça va dégrader un petit peu ce plastique. Normalement,
on met dans une assiette en verre ou je ne sais
voilà,
quoi.
Voilà, c'est ça. Mmh. Et puis ensuite, il y a plein de produits chimiques qu'on va retrouver comme retardateurs de flamme dans les sièges, etc., qui normalement vont pas passer dans le corps humain, mais comme on le disait tout à l'heure, tout ce qui est microparticules, ces poussières, etc., peuvent très bien, à un moment donné, par la respiration, contaminer l'être humain, tout simplement.
En toxicologie classique, c'est la dose qui fait le poison. Si jamais vous fumez beaucoup, vous avez plus de risques d'avoir des pathologies. Là, pour les perturbateurs endocriniens, c'est un peu différent avec un effet particulier qu'on appelle l'effet cocktail.
Oui, c'est ça. C'est parce qu'en fait, comme on le dit, à titre individuel, chaque perturbateur endocrinien a un effet minime. Hein, ce n'est pas des gros effets. On disait,
c'est pas mon gel douche tous les matins qui va rendre mon mari infertile. C'est pas ça.
C'est ça. Les seins ne vont pas pousser parce qu'on se met un gel douche qui a un petit effet estrogène-like. En revanche, c'est l'accumulation de plusieurs produits qui va, au bout d'un moment, et sur le long terme, hein, c'est les effets chroniques qu'on a beaucoup de mal à mesurer, qui vont entraîner ces conséquences sur la fertilité.
Alors, il y a un exemple qui est bien documenté, c'est celui du bisphénol A, qu'on avait beaucoup entendu parler, notamment dans les biberons des bébés. Normalement, il n'y en a plus, celui-ci. Qu'est-ce qu'il a causé? Il est responsable de quoi?
Alors oui, le bisphénol A, ça a été un des exemples qui a abouti à une interdiction. Donc ça a été... Il y a eu tout un parcours, hein, parce que toujours, ça a dû commencer à peu près en 2008 au Canada. On a décidé que certains pays vont plus vite que d'autres. Hein, nous, en général, on ne va pas très vite, voire on revient en arrière. Hein, on a vu ça récemment. Oui, il y a eu une interdiction qui a été proposée parce qu'on a vu que c'était un produit qui était reprotoxique, toxique pour la reproduction, avec des effets même sur le cerveau, des effets...
Ça, c'est prouvé, hein, il n'y a plus cancéreux. À discuter là-dessus.
Oui,
hein.
C'est prouvé, notamment chez l'animal, mais c'est toujours très, très difficile de le prouver chez l'homme, puisqu'on a des grandes difficultés à avoir une population exposée versus une population non exposée, puisque dans certaines études, on montrait que 95% des gens avaient du bisphénol A dans les urines, donc c'était difficile.
Et du coup, ce bisphénol A a été remplacé par d'autres bisphénols, le B et le S, et là, vous dites, c'est pas forcément mieux, et c'est peut-être même encore pire.
Alors, pire, on ne sait pas, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que les industriels ont des moyens, des alternatives, mais les alternatives ne sont pas toujours très positives. C'est-à-dire qu'ils payent un chimiste qui va leur changer un carbone, un sulfure à un endroit.
Si c'est pour pire, ils n'avaient qu'à garder l'ancien. Hein.
Voilà, et la structure globale de la molécule ne change pas, et donc elle va toujours agir. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout certain que les nouveaux bisphénols ne soient pas aussi toxiques que l'ancien, en tout cas.
Il y a un autre exemple perturbant, vous parlez des benzophénones, je ne le dis peut-être pas très bien, si ça va, présents dans les crèmes solaires et cosmétiques encore. Et là, la réglementation, elle varie en fonction des produits, c'est-à-dire.
Oui, alors, sur les benzophénones, le produit peut être utilisé soit pour nous protéger du soleil, donc là,
c'est une bonne chose quand même,
c'est un rapport coût-bénéfice, c'est-à-dire qu'on se dit on ne veut pas le cancer de la peau, mais on prend un petit risque d'avoir des perturbateurs endocriniens.
Si on n'a pas de cancer de la peau, mais qu'on devient stérile, je ne sais pas si...
Oui, c'est vrai, mais globalement, voilà, le risque, il est là. C'est toujours un petit peu comme ça avec les médicaments. Il y a toujours un rapport coût-bénéfice qui est à évaluer. Après, il faut être au courant.
Bon, on n'avait pas toute l'année de la crème solaire, donc ça va.
Non plus. Dans certains pays peut-être. Et puis, ils peuvent être utilisés pour protéger le produit lui-même. C'est-à-dire éviter que votre crème, qui a une jolie couleur nacrée, devienne jaunasse, avec les mêmes propriétés. Mais globalement, donc, dans ces cas-là, on accepte moins de doses dans le produit si ce n'est pas une crème solaire.
Mais du coup, on parlait tout à l'heure des pesticides. Est-ce qu'il faudrait manger bio ou en tout cas privilégier certains aliments qui seraient fortement imprégnés en pesticides et donc en perturbateurs endocriniens?
Alors, oui, on va dire globalement oui, on ne peut pas dire autre chose. Les produits bio aujourd'hui ont prouvé sur des rapports officiels de l'Europe qu'il y avait 4 fois moins de résidus de pesticides significatifs dans les produits bio que dans les produits non bio, on va dire. Donc oui, si on veut éviter les résidus de pesticides, autant manger bio.
Alors, manger bio, c'est meilleur pour le sperme alors?
Alors manger bio, c'est meilleur pour le sperme, oui, on peut dire ça assez simplement.
On peut le dire, bon, très bien.
Et puis, il y a un dernier geste, on parlait tout à l'heure de l'aération des pièces, mais c'est vrai qu'on oublie que le domicile est riche en perturbateurs endocriniens. Et donc, un des gestes qu'on peut faire tous les jours, c'est d'aérer, puisque la poussière, je crois, fait partie des réservoirs à perturbateurs endocriniens.
Bien sûr, exactement, oui, c'est un très très bon geste. Passer l'aspirateur, aérer, oui, c'est...
C'est bon contre le Covid, mais c'est bon pour la fertilité aussi, alors. C'est ce qu'il faut retenir.
C'est bon pour tout.
Très bien, professeur Droupy, on va faire une courte pause. On continue, bien sûr, cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
Ce rendez-vous revient dans un instant après avoir bien expliqué l'impact de l'environnement et notamment des perturbateurs endocriniens sur la fertilité masculine. On va quand même vous donner des solutions, des moyens de se protéger, de booster même votre fertilité, messieurs. Alors je suis sûre que ça va vous intéresser, mais vous aussi, mesdames, hein, d'ailleurs. Alors restez bien à l'écoute et ça se passe dans un instant et c'est sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous, professeur Stéphane Droupy. Je rappelle que vous êtes chef du service d'urologie et andrologie au CHU de Nîmes et également l'auteur du livre « Demain, tous infertiles » chez First Edition que vous avez coécrit avec Brigitte Fanny Cohen. Alors, professeur, on va passer aux solutions à présent, aux conseils même peut-être. On parlait juste avant des choses, des aliments, peut-être qu'il faut... On parlait de manger bio pour avoir une bonne qualité du sperme. Et à l'inverse, il y a peut-être des aliments qu'on peut manger, qu'on doit favoriser pour booster sa fertilité au masculin et alors peut-être au féminin aussi, du coup. Il y a un régime en particulier ?
Oui, globalement, il y a pas de régime pour avoir un enfant. Enfin, en tout cas, moi, je n'en connais pas, mais il y a un certain nombre d'aliments qu'il va falloir favoriser et d'autres qu'il va falloir essayer d'éliminer.
C'est le régime méditerranéen, à la base. Hein.
Voilà, on peut, pour faire simple, aller sur le régime méditerranéen, c'est-à-dire être plutôt sur des légumes, plutôt sur des poissons, notamment des poissons gras riches en oméga-3. Et puis ensuite... plutôt de l'huile d'olive que du beurre, et éviter les acides gras polyinsaturés, éviter les viandes transformées notamment. Et donc, il y a un certain nombre de bons conseils qui doivent
booster la fertilité,
oui,
quand même.
Qui en tout cas permettent d'améliorer les choses.
Donc, régime méditerranéen, mais est-ce qu'il y aurait des aliments qu'il faudrait privilégier ? Vous parlez notamment des asperges. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qu'on devrait... Est-ce que ça ne paraît pas non plus évident, le lien entre asperges et fertilité ?
Oui, bah en fait, c'est que dans certains aliments, il y a des vitamines, on va trouver certains oligo-éléments qui vont souvent manquer dans des régimes déséquilibrés. Et l'idéal, c'est de pouvoir rééquilibrer son régime avec, si on
donc,
peut...
Donc asperges, mais quoi d'autre ? Avocat, je crois,
voilà,
aussi.
Voilà, les asperges, les avocats...
Tout ce
les...
que vous aimez, Jimmy, dans les pizzas, vous mettez tout ça, non ?
Bah oui, mais il y a aussi, je crois, le chocolat noir, c'est pas mal.
Ah, oui, oui,
le chocolat, ça va faire plaisir à tout le monde, je pense que là...
Oui, voilà, oui, le chocolat noir, même les fruits rouges, il y a les noix, tout ce qui va être noix, ça va être... c'est bon pour la santé. Même des viandes maigres, hein, c'est important d'avoir de la carnitine, d'avoir du zinc, du coenzyme Q10. Donc,
viande maigre, donc ça va être des volailles ou
Mais pourquoi pas de la viande rouge, hein, simplement, il faut essayer de faire en sorte de ne pas la faire griller 3-4 fois. Et voilà.
Et du coup, vous parlez du zinc, par exemple, ou de la carnitine. Est-ce que du coup, à contrario, il faudrait peut-être faire des supplémentations, faire des cures de vitamines si on ne passe pas forcément par l'alimentation, ou finalement, ça reste un peu du marketing et on a tout ce qu'il faut dans notre assiette ?
Alors, on a sans doute la possibilité d'avoir tout ce qu'il faut dans notre assiette, mais quelquefois, c'est très compliqué de changer ses habitudes parce que les repas interviennent à un moment de la vie où on n'a pas toujours la possibilité d'élaborer ces repas comme il faudrait. Et donc, ces suppléments peuvent être intéressants puisque, en gros, ce qu'on va dire, on n'a pas parlé, mais il y a ce stress oxydant qui va attaquer les spermatozoïdes qui sont des cellules un petit peu fragiles, hein, qui n'ont pas tous les chromosomes qu'il faut, ils en ont que la moitié. Et puis, c'est des cellules mobiles qui vont être donc fragiles avec des mécanismes de défense qui ne sont pas aussi bons que d'autres cellules dans l'organisme. Et quelquefois, il va falloir les aider en leur donnant ces antioxydants parce qu'elles sont soumises, ils sont soumis à...
Donc, les couples infertiles, vous les complémentez un petit peu, les hommes?
Alors,
aussi
on aujourd'hui, il y a une vraie habitude à faire ça. Est-ce que c'est vraiment aussi efficace? Sans doute pas pour tout le monde, ça on le sait. Mais il y a probablement des gens qui vont en bénéficier, ça c'est certain.
Alors en parlant d'alimentation, c'est désormais aussi très documenté, je crois, mais il existe un lien entre infertilité masculine et obésité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Oui, alors là c'est un lien qui n'est pas aussi clair que ça pour le moment. Il y a des facteurs dont on sait qu'ils vont être nocifs pour la qualité des spermatozoïdes, hein, parce que ce tissu graisseux n'est pas inerte, c'est un tissu qui va favoriser la transformation de la testostérone en estrogène. On repart encore dans ce cycle de l'estrogène, pas très bon pour les hommes. Il y a de l'inflammation,
C'est mauvais pour les femmes aussi d'ailleurs. Souvent, on a fait une émission ici où on avait expliqué que les femmes qui maigrissent augmentent leur fertilité. Hein.
Oui, c'est ça. Alors ça, c'est un petit peu le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en dehors du fait qu'on va limiter la chaleur locale, qui n'est pas très bonne pour les testicules, les testicules, il faut qu'ils soient à 34-35, et chez les hommes obèses, ils sont enfouis et donc ils montent en température. On n'est pas si sûr que ça, notamment pour ce qui est des traitements bariatriques, c'est-à-dire perdre du poids en augmentant l'activité physique et en améliorant le régime, c'est très bien. La chirurgie bariatrique, aujourd'hui, ça peut créer des carences, par les carences de régime, en fait.
Oui.
Et donc, ce n'est pas forcément aussi bien que ça. Les résultats ne sont pas univoques.
Alors, parfois, surpoids et obésité sont associés à une manque d'activité physique. Du coup, est-ce qu'il y a aussi un lien entre sédentarité et infertilité masculine ?
Oui. on voit très clairement dans les études qu'un minimum d'activité physique est positif pour la qualité du sperme. Et en augmentant son activité physique pour des gens qui seraient sans activité, on va avoir un potentiel d'amélioration. Il faut conseiller ça aux gens.
Bouger, alors, c'est bon pour tout, en fait, hein, finalement.
Oui, voilà, bien sûr.
C'est vrai. On n'y pense pas forcément, mais certains médicaments peuvent aussi influencer sur la qualité et la quantité du sperme. Vous évoquez dans votre livre le rôle du paracétamol. C'est pourtant un médicament effectivement, que tout le monde prend régulièrement, mais je ne pensais pas qu'il y avait un risque sur la fertilité.
Je pense que personne ne le pensait vraiment. Puis on s'est aperçu que, notamment, les femmes enceintes qui prenaient beaucoup de paracétamol, parce que c'est un des rares médicaments qui est autorisé pendant la grossesse.
Vrai. Un peu le seul, presque. Hein.
Ouais, voilà. Et donc, du coup, ces femmes avaient plus de risques de faire naître des petits garçons avec les testicules non descendus. Donc ça, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, un signe de perturbation endocrinienne. Et on s'est aperçu aussi que chez des hommes qui prenaient de façon chronique du paracétamol, eh ben le temps pour avoir un enfant était plus long. Donc c'est devenu un des perturbateurs endocriniens qui fait qu'aujourd'hui, pendant la grossesse, c'est 15 jours, pas plus, de paracétamol et qu'il faut y faire attention.
Vous l'avez dit, les spermatozoïdes n'aiment pas beaucoup la chaleur. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On arrête les bains chauds? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on devrait faire du quotidien si on veut un peu booster sa fertilité?
Oui, je pense qu'arrêter les bains chauds quand on a un problème de fertilité, c'est certain que ça, il faut le faire. Il y a une sensibilité individuelle. Hein. Je pense que tout ce qu'on dit là, ce n'est pas valable pour tout. Il y a des gens qui peuvent fumer, prendre des bains chauds, etc. Et qui vont faire des petits
comme, des moyennes.
Comme ça. Mais il y a des gens qui ont une sensibilité probablement génétiquement déterminée qui vont faire qu'ils vont être fragiles.
Parce qu'il y a des caleçons qui vont mieux porter que d'autres, j'en sais rien, si c'est trop serré, trop chaud.
Ou des métiers exposés peut-être à la chaleur qui ont posé des difficultés.
Très clairement, hein, les pizzaïolos, les cuisiniers, on s'aperçoit très facilement quand on peut les extraire de leur poste de travail. Eh ben on a des améliorations, des gens qui deviennent fertiles assez facilement. Donc oui, il y a... Et
puis après, dans les tenues vestimentaires, il y a quelque chose à faire pour pas que ça chauffe trop, justement, que ça reste au frais?
Normalement, on ne porte pas de caleçon chauffant, donc...
ça va.
Non, je pense qu'il n'y a pas de modification.
Pas de conseil pratique.
Mais le principe, c'est de laisser un peu tout ça respirer. Mais
exactement.
Bon.
Alors, à la fraîche.
À la cool. Alors, on ne fait pas forcément le lien, mais le cannabis est l'ennemi des spermatozoïdes. Alors, c'est quelque chose, je pense, que personne ne sait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Ah oui, ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire, parce que le cannabis, aujourd'hui, surtout, il est consommé très tôt. Hein, même si ça semble diminuer un petit peu, on a quand même des jeunes qui vont à un moment où leur appareil génital continue à se développer, après la puberté, pendant les quelques années qui suivent, vont commencer avec le cannabis. Le cannabis, il va être nocif par deux biais. D'une part, parce qu'on fume un certain nombre de cochonneries, c'est pas des produits bio, ça.
Non,
cannabis,
ça c'est sûr.
Il y a tout un tas de métaux lourds, tout un tas de saloperies à l'intérieur qui ne sont pas le cannabis. Et puis à côté, il y a le cannabis, le THC, qui a des récepteurs propres aux cannabinoïdes dans les testicules, dans le cerveau, on le sait. Mais il y a des récepteurs également dans les testicules. Ce qui fait que le produit va directement se mettre dans les testicules, altérer
le fonctionnement. Peut-être une raison de l'expliquer ça aux ados, je pense que ça peut les calmer, peut-être plus que d'autres arguments qu'on leur sort parfois.
Il y a une augmentation par deux du risque de cancer du testicule quand on fume du cannabis régulièrement.
Ah ouais.
Ça peut peut-être leur faire peur.
Ouais, c'est un bon argument, je vais le retenir celui-là. Il est pas mal. Alors, on aurait peut-être dû commencer par ça, mais pour avoir des enfants, il faut avoir des rapports sexuels suffisants. Ce n'est pas toujours le cas dans les couples que vous rencontrez en difficulté.
Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut vérifier, en tout cas. Hein, parce que,
ça vous arrive de tomber sur des couples où finalement vous découvrez qu'il n'y en a pas de rapports sexuels?
Alors, oui, il y a les mariages non consommés, mais dans une carrière, on n'en voit pas 15 000, heureusement. Mais en tout cas, il faut savoir les identifier. Et puis après, il y a tout simplement les gens qui vont avoir des rapports sexuels que le week-end, parce qu'ils sont moins fatigués ou simplement parce qu'ils sont géographiquement... Ça peut ne pas suffire, puisque l'ovulation ne tombe pas forcément tous les samedis, malheureusement.
Merci beaucoup, professeur Droupy, d'être venu sur notre plateau cet après-midi, nous éclairer donc sur cette question de la fertilité masculine. Alors, pour ceux qui voudraient en savoir plus, je ne peux que rappeler le titre de votre livre, « Demain tous infertiles », chez First Edition. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre séquence « Les mots du quotidien ». Nous ferons un focus aujourd'hui sur une classe de médicaments que vous connaissez bien, les antibiotiques. Savez-vous comment ils ont été découverts? Dans quelle indication bien les utiliser? Le docteur Jimmy Mohamed nous dira tout. Alors à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux d'être avec vous cet après-midi encore. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Aujourd'hui, focus sur une classe de médicaments dont on a tous entendu parler, les fameux antibiotiques. On a tous en tête le slogan, ils ne sont pas automatiques. Mais savez-vous comment ils ont été découverts, ces antibiotiques? Et justement, quand il faut finalement les utiliser à bon escient? Notre journaliste Benjamin Lévesque est allé dans la rue tester vos connaissances sur le sujet. On écoute ce que ça donne.
Alors, je pense que les antibiotiques, c'est quelque chose de quand même assez récent. Ça doit faire à peu près entre 40 et 50 ans.
Comme ça, je dirais peut-être depuis les années, je sais pas, 70, 80.
Antibiotiques, c'est très controversé.
Les antibiotiques, on les utilise quand c'est viral, je crois, ou c'est l'inverse.
Généralement, quand il y a, j'imagine, des infections.
Quand les médicaments classiques, on va dire, ne suffisent pas à guérir ce qu'on a, on passe peut-être par les antibiotiques pour tuer le virus. Les angines, tout ce qui est rhinopharyngite, peut-être qu'on en abuse peut-être un petit peu trop.
Les effets secondaires sur les antibiotiques, or je pense que ça doit dépendre des antibiotiques. A priori, ils sont minimes, sinon ils n'iraient pas sur le marché, en tout cas en Europe.
Parfois des maux de tête ou mal de ventre.
On peut avoir mal au ventre, mal à la tête, on peut se sentir mal, chute de tension.
Alors Jimmy, on va commencer par un petit peu d'histoire. On va voir si vous pouvez vous mettre 2 minutes, allez 3 minutes dans la peau de Stéphane Bern. Rappelez-nous l'histoire de la découverte des antibiotiques.
Alors je vous évite l'accent, ça va être très dérangeant, je ne vais pas l'imiter. Néanmoins, c'est vrai que le mécanisme des découvertes des antibiotiques, c'est un peu fortuit, découvert fortuitement. C'est Alexander Fleming en 1928. Il avait une petite culture de bactéries qui a été bloquée par la contamination d'un champignon, la pénicilline. Sauf qu'il a fallu attendre 14 ans supplémentaires, 1942, avant d'avoir une production industrielle de cette pénicilline qui va sauver des millions de vies à travers le monde en pouvant traiter des infections pour lesquelles cela, jusqu'à présent, n'avait pas de traitement. La tuberculose, des infections pulmonaires, des septicémies, les gens mouraient alors qu'on avait un traitement qui était à portée de main.
Bon, c'était pas mal comme petit rappel historique. C'est peut-être pas Stéphane Bern. Hein.
Non, il manque
on
le panache. On va
attendre 16 heures pour ça,
ouais,
mais c'était bien.
C'était bien.
Alors Jimmy, comment ça fonctionne, on va dire basiquement, hein, parce qu'on n'est pas des chimistes professionnels.
Moi
mais,
non plus,
mais, voilà,
je vous rassure.
Alors expliquez-nous simplement, ça vous savez faire.
Bon, alors en gros, les antibiotiques, c'est des substances qui sont chimiques, naturelles ou de synthèse, qui sont traitées pour utiliser des infections bactériennes, comme les infections urinaires, les pneumonies, mais pas celles du Covid, des angines bactériennes. Et évidemment, il existe plein de familles d'antibiotiques et chacune est efficace contre une bactérie ou un groupe de bactéries. Et les antibiotiques agissent soit en bloquant la croissance d'une bactérie, soit en la détruisant, tout simplement.
Alors, contrairement par contre à ce qu'on a parfois en tête, les antibiotiques, c'est pas magique. Vous avez vu, j'ai inventé un nouveau slogan.
C'est pas mal. Je crois que l'assurance maladie va vous débaucher.
Les antibiotiques, c'est pas magique, c'est pas mal. Il y a plein d'autres infections qui ne guérissent pas du tout avec les antibiotiques.
Évidemment,
il faut le rappeler,
toutes les infections virales de saison.
Pas le coronavirus, pas la grippe.
Et d'ailleurs, vous le faites bien de le dire, puisqu'on se rend compte que les patients qui atterrissent aux urgences traitées en médecine de ville pour du coronavirus qui vont se dégrader sont sous une famille d'antibiotiques qu'on appelle les macrolides. Ils sont tous mis sous azithromycine, le traitement prôné par le professeur Raoult.
Voilà.
Et donc ce traitement n'est pas efficace pour traiter le Covid. Donc il n'y a aucun intérêt à prendre cet antibiotique si jamais vous avez cette infection. Et puis même chose, si jamais vous avez une rhinopharyngite, un syndrome grippal, une petite bronchite et l'immense majorité aussi des angines,
ce
n'est pas bactérien, donc ça ne sert strictement à rien. Si jamais vous êtes soulagé par les antibiotiques, eh bien c'était tout simplement le temps qui a fait son effet et pas forcément l'antibiotique, puisqu'au bout d'une semaine, tout rentre dans l'ordre.
Alors, petit rappel important, y compris quand on les utilise bien, pour la bonne raison, on a compris quand il y a des bactéries, que le médecin les a prescrits, on n'en prend jamais tout seul, il faut bien les utiliser. Ça veut dire quoi, bien les utiliser?
Alors, les antibiotiques, lorsqu'ils sont utilisés à tort, ils deviendront moins forts.
Ça, c'est le nouveau slogan. Allez,
alors,
on a fait tous les slogans.
On a fait
là,
un brainstorming, bon. Là, tout le monde est content. Parce qu'à force de prendre des antibiotiques, justifiés ou pas, on va entraîner ce qu'on appelle de l'antibiorésistance. Et par la suite, les antibiotiques ne marcheront plus et l'antibiorésistance pourrait devenir la première cause de mortalité devant les cancers. Donc peut-être que ça tuera plus.
Donc on va au bout de l'ordonnance.
Donc on va au
vous
bout
avez des patients qui arrêtent avant, hein, je le sais.
Même
vous
si ça va mieux,
déjà,
exactement.
Ouais.
Même si au bout de 3 jours ça va, on va au bout. On respecte la posologie et si jamais il en reste dans la boîte, puisqu'en France on ne donne pas
on
de conditionnement, on n'en reprend pas, même si vos symptômes ressemble aux symptômes que vous avez eus lorsque vous avez eu un traitement antibiotique. Donc consultez et prenez-en avec parcimonie.
Très bien, merci beaucoup Jimmy pour toutes ces précisions. Europe 1. Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h. Alors restez surtout, car juste après, c'est la chronique sexo de Catherine Blanc. Alors n'hésitez pas, hein, j'en suis sûre, vous restez sur Europe 1.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, comme tous les jours, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Alors Catherine, aujourd'hui, on a une question d'Ophélie qui a 37 ans. Je vous la lis tout de suite. Mon mari me reproche de ne pas prendre soin de moi ou d'être coquette quand je suis avec lui le soir ou le week-end, alors que je m'apprête beaucoup, dit-il, pour aller travailler en semaine. Je lui ai dit que j'aimais être à l'aise avec lui. Comment le rassurer sans devoir faire de défilé de mode à la maison? C'est très pratique comme question aujourd'hui.
Absolument, et voilà. Je pense que ça concerne beaucoup de couples.
Ah oui, je suis sûre. Alors on peut le comprendre, le mari, mais on peut comprendre la femme aussi. C'est pas
bien
évident
sûr
d'être coquette tous les jours. Enfin surtout
après une journée de boulot, parce que c'est ça, on a l'impression qu'il lui reproche. Hein. Pourquoi il est frustré, vexé, comme ça, c'est un peu la vie, non ?
Oui, mais tout simplement parce qu'il voit sa femme qui, pour pouvoir exister dans un monde de rivalité, dans un monde social, il faut s'apprêter, il faut être séduisant, pas séduisant au sens sexuel du terme, séduisant au sens de plaisir à être rencontré, de plaisir à travailler avec la personne en question. Donc évidemment, c'est mettre tous ses atours en avant.
Et se dit, tu n'as pas de plaisir à être coquette pour moi, c'est ça ?
Voilà. Donc c'est, et puis tu pourrais séduire au sens de ce qui me plaît moi, de ce qui m'excite moi, et tu le fais finalement, tu mets tous ces artifices qui me plaisent, tu les mets pour aller travailler où tu es censé travailler, alors que là où tu rentres vers moi, tu ne cherches pas à me séduire et tu te mets dans une attitude décontractée, démaquillée,
dit-il en caleçon chaussettes sûrement.
Exactement.
Oui, c'est ça, parce que encore faut-il savoir ce que lui fait comme effort avant de réclamer les mêmes efforts.
Il est en costume, cravate, hyper chic à la maison.
À la limite, on peut le comprendre si lui
pas
effectivement,
beaucoup, comme ça.
Mais s'il se met sur son 31, effectivement, du lundi au dimanche, on peut comprendre le décalage. Mais s'il est à la cool avec ses caleçons troués et ses chaussettes qui sentent pas bon, il peut aussi derrière être un peu. Voilà, on en demande peut-être un peu plus aux femmes qu'aux hommes, notamment en matière de séduction.
Exactement. Mais c'est ça qui est. Alors, sans qu'il ait le caleçon troué ou les chaussettes qui puent.
Oui, car les boules n'ont pas de dents, donc. voilà, pas de
Jimmy, attention, vous vous lâchez. Mais le fait est qu'effectivement, c'est toujours cette idée qu'une femme doit être dans un rapport de séduction pour solliciter l'excitation masculine, comme si l'homme ne pouvait pas d'abord avoir son propre élan, comme s'il fallait toujours avoir une démonstration particulière des codes pour que l'homme trouve son excitation, au lieu d'être tout simplement porté par son amour, porté par le fait que sa femme, qu'elle soit avec un gros pull ou qu'elle soit en robe et en talons, de toute façon, est aussi excitante. Mais comme toujours, cette idée que le vecteur de l'excitation masculine, ce sont les codes de la pornographie ou de l'érotisme. Et du coup, évidemment, les efforts sont faits toujours d'un côté, comme s'il y avait un devoir à l'égard de la femme, à l'égard de l'homme.
Qu'est-ce que vous conseillez à Ophélie ? Qu'est-ce qu'elle peut lui répondre alors ? Parce qu'elle a le droit d'être tranquille quand même. Alors peut-être de là à être en jogging pourri et je ne sais pas, c'est pas détaillé hein, la tenue maison. On va
oui,
dire.
Parce qu'on n'est pas obligé de dire que c'est où voilà. Carrément la gravure de mode ou le jogging pourri.
C'est ça, il y a des jolis petits pyjamas hein, très mignons pour l'intérieur.
Non, mais au-delà de ça, je crois que la question c'est que les deux ont à s'interroger. Pourquoi une femme doit toujours être un sexe à pile incroyable et pourquoi une femme, dès lors qu'elle est chez elle, oublie qu'elle peut être objet de séduction ou être dans le plaisir d'être dans tout à sa féminité. Et c'est là le truc, c'est que les femmes auront tendance à trop exagérer, trop tirer le trait de ce devoir d'être parfaite, maquillée, coiffée, habillée, talonnée, etc.
Oui, avec les enfants, qui nous vomissent dessus, tout ça, c'est vrai que c'est pratique. Hein,
absolument pas, effectivement. Et de l'autre côté, tout d'un coup, cette espèce de trop, c'est trop, qui font qu'elles sont dans un lâcher-prise à la maison, en ayant une image assez dévalorisée d'elles-mêmes, et donc, par définition, qu'elles offrent à leur mari.
Est-ce qu'il n'y aurait pas un brin de jalousie derrière ses reproches
Non,
mais au-delà du fait de dire bon, elle n'en fait pas assez pour moi, peut-être qu'elle en fait trop pour les autres et
c'est
du coup se sentir un peu en concurrence en se disant
c'est le sentiment qu'elle investit l'extérieur plus qu'elle n'investit l'intérieur et donc plus son mari puisqu'il lui appartient. Donc il y a une part de vrai bien sûr, c'est-à-dire que celui qui est acquis, donc on n'est pas dans l'inquiétude et donc on n'a pas à remettre toujours de l'huile sur le feu pour garder ce feu ardent, alors qu'à l'extérieur tout est à conquérir, tout est dangereux. Parce que je peux ne pas plaire suffisamment, je peux ne pas intéresser suffisamment, on peut ne pas s'arrêter sur moi. Et je parle encore une fois, pas de sexualité, pas de physique, mais dans la vie sociale, nous avons besoin d'attirer l'attention à nous. Et donc, effectivement, cette jalousie est aussi justifiée par une réalité, même si nous ne parlons pas de sexualité.
Qu'est-ce qu'elle lui répond à son mari alors ?
Eh bien, elle veille à être pour elle-même déjà, voir est-ce qu'elle-même, elle se plairait dans la situation dans laquelle elle est. Et si oui, ben, il faut savoir simplement avoir des moments de restaurant,
on va s'habiller pour lui le week-end aussi.
Et on peut prendre du temps ensemble et se plaire. On peut être tout nu aussi. Hein.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Alors je ne sais pas si vous êtes toujours avec votre époux en bon terme. En tout cas, avec Stéphane, on tient à vous l'annoncer. Stéphane.
Bah, oui, les histoires d'amour finissent mal en général.
Bah oui. Henri IV,
Henri IV et Henriette d'Entragues.
Ça s'est mal fini, on va
Rimbaud
vous en parler.
Et Verlaine, ça s'est fini à coup de revolver.
Ça s'est très très mal fini. Ouais. Et on découvrira.
Et vous avez choisi
ça s'est
qui
fini même pire qu'à coup de revolver, puisqu'il y a eu une petite enquête qui a été menée. On en parlera. Johnny Depp et Amber Heard parmi les contemporains, Stéphane. Vous savez comment ça s'est terminé?
Ah non, je ne sais pas comment.
Bah, c'est moche.
Merci beaucoup, messieurs. Très beau programme. On sera à l'écoute avec le docteur Jimmy Mohamed et vous aussi, surtout. Restez sur Europe 1.